La première réunion des assemblées de province demain qui entame une nouvelle mandature. À l'ordre du jour, l'élection du bureau et donc du président. Explications et enjeux dès le début de ce journal. Une famille de Toulon mise en examen pour traite d'humains et pour le meurtre de deux militaires. L'un d'entre eux pourrait être un Calédonien disparu depuis 2022. Sa famille est sous le choc de la nouvelle. Une battue organisée demain au domaine de la Couvelière à Dembéa. Elle est organisée pour retrouver un homme parti en randonnée mardi. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Trouver un stage pour les étudiants en BTS, pas toujours facile. Le lycée La Pérouse organisait un stage dating pour les aider dans leurs recherches. Et puis une expérience rare samedi soir. Le conservatoire vous invite à vous plonger dans l'univers de l'opéra autour d'une chanteuse internationale. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc demain le deuxième acte des élections provinciales avec l'installation officielle des trois assemblées de province et de leurs bureaux pour la mandature 2026-2031. Les 40 conseillers de la province sud sont convoqués à 10h pour élire leur président et leurs trois vice-présidents. Les 22 élus du nord se retrouveront à 9h à Koné et les 14 élus des îles seront réunis à 9h à Wélifou. Pour cette première séance, les nouvelles assemblées seront présidées par le doyen d'âge. Trois assemblées de province donc et trois scénarios différents. Elisabeth Noir.
Le plus simple, c'est celui de l'Assemblée de la province sud, avec une très large majorité absolue de 28 élus sur 40. La liste Les Loyalistes et le Rassemblement a tué le suspense. Sonia Baquet s'est assurée de retrouver la présidence qu'elle occupe depuis 2019. On notera au passage que c'est la première fois depuis 2004 qu'il n'y a pas d'alternance à la province sud et que la majorité sortante est reconduite. On rappelle également que l'UCF-LNKS dispose de 7 sièges et que l'Éveil océanien en a 5 dans l'Assemblée de la province sud. Avec une telle répartition, l'élection sera une formalité et le bureau devrait être monocolore avec trois vice-présidents issus de la liste Les Loyalistes, le Rassemblement.
Ce sera plus compliqué en province nord où il n'y a pas de majorité absolue, ce qui crée une véritable incertitude.
C'est l'UCF-LNKS de Pascal Savoie qui est arrivée en tête dimanche dernier. Elle occupe 10 sièges sur 22, mais elle est talonnée par l'unité Paul Néoutine qui a obtenu 9 sièges. À ça s'ajoutent les 3 sièges obtenus par la liste Agissons Ensemble pour le Nord, liste non-indépendantiste conduite par Vanessa Huachapo. Ce sont ces 3 sièges qui feront la différence et qui serviront à désigner le président. Les partisans de la France dans la province nord ont en fait 3 possibilités. Ou ils laissent les indépendantistes se débrouiller entre eux, sachant qu'il faut qu'un candidat obtienne 12 voix pour être élu. Ou ils votent pour l'UCF-LNKS de Pascal Savoie, qui est arrivé en tête et qui totaliserait ainsi 13 voix. Ou ils portent leur voix sur le président sortant, Paul Néoutine, qui obtiendrait ainsi les 12 voix nécessaires. Des discussions ont lieu depuis dimanche soir, mais la plus grande discrétion est bien sûr de rigueur. On rappelle que Paul Néoutine préside la province nord depuis 27 ans. Il a été élu la première fois en 1999. Sa défaite serait un petit séisme, d'autant plus que c'est la seule province que l'UNI peut présider.
Et dans la province des îles, enfin, Elisabeth, c'est l'UCF-LNKS qui devrait conserver la présidence.
Un cas de figure encore différent dans la province des îles, où là aussi 3 listes sont représentées. L'UCF-LNKS de Michael Forest, qui a obtenu 6 sièges. Dynamique autochtone de sa sœur, Omera Neslin, qui occupe 6 sièges également. Et enfin, le Palika de Wally Waitcha, qui a 2 sièges. Personne n'atteint donc la majorité absolue, qui est de 8 voix. On peut penser à une alliance entre l'UCF-LNKS et Dynamique Autochtone pour élire le président et à un partage des postes de vice-président entre les différentes composantes. À cela s'ajoute la situation de l'ancien président Jacques Lallier, dont la liste Union pour construire dans le consensus a atteint la barre des 5% des inscrits, mais n'a pas pu participer à la répartition des sièges. Jacques Lallier a annoncé un recours contre cette répartition qu'il conteste.
Les assemblées de province se retrouvent donc demain matin à 9h pour le Nord et les îles et à 10h pour le Sud. À chaque fois, la séance est présidée par le doyen d'âge et il faut qu'au moins les 3/5 des membres soient présents. Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Si l'élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, c'est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu. Radio Rythme Bleu sera bien sûr présente dans les 3 assemblées de province pour suivre ces installations. J'ajoute que nous reviendrons sur le résultat des provinciales et sur leurs conséquences demain à 7h30 avec Virginie Ruff. Schnack, vice-présidente du Rassemblement, qui sera notre invitée du matin. Et demain midi, c'est le député Nicolas Metzdorf, élu à la Province Sud et au Congrès, qui sera votre invitée, Elisabeth, dans le magazine Transparence, à partir de midi, juste après la première réunion de l'Assemblée de la Province Sud. Rappelons d'autre part que les députés insoumis Mathilde Panot et Bastien Lachaud arrivent demain en Nouvelle-Calédonie, où ils resteront jusqu'au 12 juillet. Ils viennent dans la foulée des élections provinciales dans lesquelles LFI a salué une victoire indéniable des indépendantistes. Mathilde Panot et Bastien Lachaud annoncent qu'ils consulteront les élus récemment désignés par les urnes, que ce soit lors des élections municipales comme des élections provinciales, et qu'ils sont chargés de défendre auprès des forces politiques locales les positions du groupe parlementaire de la France Insoumise. Une réunion publique est prévue dès le samedi 4 juillet à Lifou. Enfin, de son côté, l'association Un cœur, une voix, qui défend l'ouverture du corps électoral, a annoncé c'est qu'elle allait demander un rendez-vous aux deux députés insoumis.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Qui, selon vous, sera élu demain à la présidence de la province Nord? Si vous pensez que ce sera Pascal Sawa, la tête de liste du CFLNKS, vous tapez 1. Si vous pensez que ce sera Paul Néaoutine, la tête de liste unie, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier est 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la fermeté du maire de l'île des Pins qui a décidé de fermer l'ensemble des services municipaux après la série de violences commises dans la commune. Ils ne sont que 3% à dire qu'ils n'approuvent pas cette fermeté. Justement, revenons sur ce sujet. La mairie de l'île des Pins qui maintient la fermeture de ses services. La décision a été prise après les exactions commises le week-end dernier et une réunion d'échange et d'information qui était organisée hier entre les habitants et le maire Régis Vendégoul, Lionel Sabot.
Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, les locaux municipaux mis à disposition d'Enercal ont été incendiés, des bureaux administratifs saccagés, des agents communaux agressés alors qu'ils intervenaient. Le maire a appelé les autorités coutumières à prendre leurs responsabilités et demande aux habitants de transmettre les informations dont il dispose aux autorités. Écoutez Régis Vendégoul.
On croit savoir qu'il y a deux ou trois tribus qui ont commencé à bouger à leur niveau et un clan a déjà interpellé un de leurs jeunes. Enfin, pas interpellé, mais a discuté pour l'interpeller. Parce qu'il se cache ou j'en sais rien, mais il n'y était pas à leur entrevue, dans leur réunion de clan. Voilà ce qui est appelé à bouger. La grande secrétaire est intervenue aussi à ce marché municipal pour dire voilà quel travail, parce qu'il y a une ou deux questions qui sont allées vers les autorités coutumières, là. Et surtout des critiques aussi. On s'est dit au niveau municipal qu'il fallait, en stoppant tout ça, faire prendre conscience à tout le monde, mais on espère, on entend tous ces bruits que ça réagit, mais on espère surtout qu'il y aura prise de conscience avant, et ensuite on espère un ralentissement et un frein à tous les actes d'incivilité et autres cambriolages un peu partout là. D'une masse de jeunes, je parle de masse pour 18 à 20 personnes, qui est toujours en effervescence à chaque week-end avec fond d'alcoolisation et le marché noir est toujours présent.
Et si le ramassage des ordures ménagères, la cantine scolaire, les installations sportives et plusieurs services municipaux resteront fermés tout le mois, les transports scolaires, eux, vont reprendre dès la semaine prochaine. On ne peut pas sacrifier l'éducation des enfants, explique Régis Vendégoul.
On ne peut pas sacrifier l'éducation des enfants. C'est ce qui est réclamé par le corps enseignant directement face à l'exécutif municipal. Elle est venue sur place pour solliciter un peu plus d'égards à l'éducation des enfants qui ont déjà subi. Il y a eu des arrêts, il y a les problèmes de la direction de l'enseignement, etc., avec tout ce qui est matériel qui s'ajoute au financier à la direction de l'enseignement là-haut. Et le ramassage scolaire, ça commence à 23-24 km au nord, sur les deux côtes, pour ramener les enfants à l'école et les ramener le soir. Et quand on dit qu'il n'y a pas de ramassage scolaire, tout le monde n'a pas de véhicule. On laisse cette semaine se faire un covoiturage improvisé au niveau des familles éloignées de Vao, mais on va lâcher le transport. Par contre, la cantine est suspendue. Les parents vont se reprendre l'habitude avec la solidarité nécessaire pour refaire les plats des enfants pour midi. Ça va être dur à supporter, mais on compte bien que la solidarité entre les gens va aussi faire discuter sur ce problème d'incivilité, de délinquance et autres.
Régis Vendégoul, le maire de l'île des Pins, joint au téléphone ce matin par Kéline Daboiscouf.
C'est difficile pour vous.
Vous êtes dans Infosoir sur RB, il est 17h54.
La suite de ce journal est le choc pour une famille calédonienne. Depuis 2022, elle est en effet sans nouvelles de Jacques Paquesseau, parti en métropole pour faire ses classes dans la marine. C'est à cette époque qu'il a été porté disparu. Et cette semaine, le parquet de Toulon a communiqué sur cette enquête. 5 membres d'une même famille ont été placés en détention provisoire, dont 3 pour meurtre, Lionel. Oui.
Les suspects sont originaires du Pacifique, la mère de Nouvelle-Calédonie et le père de Wallis et Futuna et du Vanuatu. Peu de détails sur les circonstances de cette affaire. Le parquet de Toulon indique que la famille a hébergé plusieurs jeunes ultramarins entre 2011 et 2023. 7 d'entre eux affirment avoir été dépouillés de leur argent et de leurs pièces d'identité et d'avoir été ensuite séquestrés et violentés. Et 2 autres militaires sont portés disparus. On sait que l'un est né en 1997 à Nouméa et qu'il a disparu en 2022, alors qu'il était parti faire ses classes au sein de la Marine nationale à Saint-Mandrier-sur-Mer, tout près de Toulon. Franck Paquetto, son frère, a vécu un choc en apprenant les éléments de l'enquête par la presse.
C'est difficile pour nous parce que voilà, on n'avait aucune nouvelle précise et on apprend ça brutalement via les réseaux sociaux, tous les gens qui nous envoient des messages. C'est brutal pour nous, en fait. Donc, on a du mal à réaliser. Et voilà, on est vraiment choqués, en fait. On aimerait bien être au courant avant tout le monde, quoi. Parce que là, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés dans les médias. Et nous, les premiers concernés, on est au courant de rien, en fait. C'est ce qui me met en colère, surtout moi, et ce qui nous choque, quoi, la famille.
Avec le secret de l'instruction, Franck Paquesseau n'a pas tous les éléments. Cette nuit, la famille a eu une visioconférence avec la section de recherche de la gendarmerie et attend toujours des nouvelles de leur avocate en métropole. On sait que des ossements, qui pourraient être ceux des 2 militaires, ont été retrouvés dans les Bouches-du-Rhône. Des analyses ADN sont en cours. Franck Paquesseau attend les résultats, mais ne perd pas espoir.
On attend avec impatience les résultats ADN pour avoir un peu plus de précision à qui appartiennent ces ossements. Et seulement à partir de là, on pourra passer à autre chose, on va dire, si c'est un deuil qu'on doit faire ou pas. Mais nous, on a toujours espoir, la famille, que notre frère soit vivant, quoi. C'est notre souhait le plus cher, en fait. Pour l'instant, on est en suspens, en attendant les résultats ADN. Où la priorité, c'est de retrouver notre frère. Moi, je m'inquiète surtout de l'état de santé de mon frère, de mes parents, de mes proches, quoi, de ma famille. Quoi.
Et au moment de la disparition, la famille de Jacques Paquesseau a communiqué pour tenter de le retrouver. Franck, son frère, a d'ailleurs alerté la gendarmerie de Toulon, mais sans éléments tangibles, sa plainte n'a pas été enregistrée. Ce qui le met aujourd'hui en colère, car du temps précieux a été perdu.
Ce qui me met le plus en colère, c'est que dès le début de la disparition de mon petit frère, au bout de 3 mois qu'on n'a plus de nouvelles, j'ai été signalé aux gendarmes à la base navale de Toulon et ils m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont indiqué qu'il était majeur et vacciné et que c'était son droit de pas rentrer en contact avec la famille si c'était son choix. Or, comme je vous l'expliquais, nous, on est très famille dans notre communauté, dans le Pacifique, et c'est pas normal qu'ils coupent les ponts d'un seul coup. Plus aucun coup de fil, ni au niveau des cousins, des neveux, des parents, plus rien, quoi. Ils ont rien, ni pris main courante, ni une plainte. Et c'est grâce à la section de recherche de Monsieur Ferré, c'est eux qui ont repris plus d'un an plus tard l'enquête. Donc vous imaginez le temps qui est passé. Pour moi, il y a eu laxisme depuis le début et voilà. Donc c'est ça qui me met en colère, en fait.
Et j'ajoute que le 2e militaire porté disparu est né en 1988 à Tahiti. Il était au sein de la Légion étrangère. Il a été considéré d'ailleurs par sa hiérarchie comme déserteur.
Une autre disparition inquiétante, cette fois-ci en Nouvelle-Calédonie, signalée par la gendarmerie. Un randonneur de 29 ans a disparu au niveau du domaine de la Couvelière à Dumbéa. Léo Tessier travaillait occasionnellement sur le domaine en tant que jardinier. Il partait de temps en temps pour des balades en forêt. C'est ce qu'il a fait mardi matin. Mais le gérant du domaine, Cédric Cobert, s'est inquiété lorsqu'il ne l'a pas vu revenir ce soir-là.
C'est un patenté, oui, qui vient régulièrement, parce que j'ai une des 5 hectares ici, donc c'est lui qui entretenait le jardin régulièrement. Voilà, et puis de temps en temps, il vient me demander pour partir d'ici, est-ce que nous, on a un départ de balade directement à la rivière, donc il me demandait de poser sa voiture, et puis s'il pouvait aller à la rivière. J'en faisais des petites balades, il faisait son petit tour dans la forêt, dans le long de la rivière, il revenait 2-3 heures après, je me suis fait une petite promenade le long de la rivière, ça, il allait jamais très très loin, non. Il est venu mardi, comme il fait d'habitude, et puis à 5h, 5h30, le voyant pas revient, on a commencé à s'affoler, quoi. Et on a déclenché les secours le lendemain matin.
Les gendarmes ont depuis inspecté la zone en mobilisant des drones, un hélicoptère, des chiens renifleurs qui ont tenté de suivre la piste d'un t-shirt retrouvé, mais sans succès pour le moment. Les usagers du domaine ont donc décidé de se mobiliser aux côtés de la gendarmerie et organisent une battue demain matin, Cédric Cobert.
Alors le rendez-vous demain, c'est à partir de 8h au domaine de la Couvelière. Donc les gens peuvent se garer ou à l'intérieur de la Couvelière ou sur le parking dit du Yalarange. Et tous les gens qui viennent, quoi, qui peuvent être là un peu avant 8h pour qu'on fasse un départ assez rapide, quoi. On est sur plus de 100 hectares. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs possibilités. On saute Zoumac, tous les chemins de trail qui montent sur les anciennes mines et tout ça. Il y a des endroits un peu rocheux, qui sont un peu falaises, qui peuvent être dangereux. Il y a pu glisser, il y a pu tomber. Donc c'est ouvert à tous les bénévoles, trailers, ceux qui connaissent la zone. Tous les gens qui font les blue trails, etc., connaissent très bien les chemins. Donc on a besoin de tous les gens un peu endurants, bénévoles, et qui sont prêts à balayer toute la zone le plus loin possible. Maintenant, on est monté assez loin, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin. Et puis reprendre des sentiers un peu qu'on prend pas forcément, quoi. Parce que là, il essaie de faire sa troisième nuit dehors, quoi. Donc le temps est compté maintenant.
Les trailers, les randonneurs, toute personne en bonne santé physique est invitée à participer à cette marche. Vous pouvez informer de votre participation Cédric Cobert en joignant le 74 17 69. Et pour toute information, vous pouvez contacter la gendarmerie au 44 87 00. La communauté des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie endeuillée. On a appris le décès du commandant Philippe Orsès, des suites d'une longue maladie à l'âge de 71 ans. Né au Maroc, passé par le prestigieux bataillon des marins-pompiers de Marseille, Philippe Orsès était arrivé en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 23 ans. Il y effectuera une carrière remarquée à l'époque où les centres de secours et d'incendie commençaient à se structurer. Écoutez le commandant Danilo Guépi, l'ancien chef de corps des sapeurs-pompiers de Païta.
Philippe Orsès a été le troisième chef de corps des sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa. Il est arrivé, si ma mémoire est exacte, en 1978 en tant que chef de corps. Il a géré la caserne du temps où elle était encore sur la flottille, où il y avait très peu de moyens et des bâtiments très vétustes qui dataient du temps des Américains. Ensuite, il a fait évoluer un peu les choses. Moi, j'ai eu la chance d'arriver en 1982 au sein de la caserne Lucien Parent de Nouméa. Ça a été une personne qui a cherché à recruter et à essayer des fois à faire évoluer les choses au sein du centre de secours de la ville de Nouméa, qui était à l'époque, jusqu'en 1995, le seul centre de secours. Il a apporté sa pierre à l'édifice pour l'évolution des services incendie et de secours en Nouvelle-Calédonie. J'ai été assez attaché à lui parce que j'ai quand même passé 17 années sous son commandement. C'est une personne qui a beaucoup apporté et qui était très estimée aussi bien en caserne qu'en extérieur.
Une veillée se déroulera au centre funéraire du Pont des Français mardi prochain de 16h30 à 19h avant l'inhumation du commandant Orsès dans la stricte intimité familiale. Il est 18h03, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ce mois-ci, chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez d'un kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1190 francs seulement. Offre valable dans vos 4 magasins, Ansvata, Apogoti, Faubourg et Magenta, dans la limite des stocks disponibles. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, écouter, agir et rendre compte, c'est la méthode mise en place par Cynthia Jean depuis son arrivée à la mairie de Dumbéa. Le maire et son équipe municipale ont dressé le bilan des 100 premiers jours qu'ils viennent de passer à la tête de l'exécutif, Lionel.
Cynthia Jean a notamment souhaité, lors de ce mandat, rompre avec l'ancien exécutif en instaurant une plus grande proximité avec les administrés, en mettant en place, par exemple, des permanences quotidiennes d'élus. Cynthia Jean qui a également intégré une démarche de terrain dès ses premiers jours. jours à la tête de la commune.
C'est important pour nous d'expliquer ce que nous avions fait durant ces 100 premiers jours, les priorités que nous avions mis en œuvre. On a commencé par du terrain tout de suite, beaucoup de visites. Nous sommes allés à la rencontre, par exemple, de toutes les écoles, de tous les agents de la mairie. On a retiré quelques actions immédiates à mettre en œuvre. La renégociation de la convention de sécurité des biens et des personnes avec le recrutement en cours de 3 policiers municipaux, l'acquisition de 2 chiens policiers, le déploiement de 10 nouvelles caméras de vidéosurveillance et puis beaucoup de proximité, la mise en œuvre du comité consultatif pour les grands projets de Dimbéa, l'élargissement des missions du conseil des jeunes avec un projet concret financé par le conseil municipal. Et voilà, nous sommes très satisfaits de ces premières actions.
Et le 22 juillet prochain, un conseil municipal exceptionnel sera organisé pour présenter aux élus de politique publique, la politique sociale de la ville menée au travers du CCAS et le plan de tranquillité publique.
Le 22 juillet, nous organisons un conseil municipal extraordinaire où nous allons présenter 2 politiques publiques, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'un conseil municipal classique où finalement on vote des délibérations qui sont juridiques, pas forcément toujours compréhensibles pour le grand public ou pour l'ensemble des élus, là nous allons présenter 2 politiques publiques à l'ensemble des élus. Une première politique publique que nous appelons le plan de tranquillité public avec 3 axes, 3 priorités majeures, la lutte contre les cambriolages, la lutte contre l'alcoolisation sur la voie publique et la lutte contre les nuisances sonores. Nous aurons également la présentation d'une politique sociale, de la politique sociale menée par la ville au travers de son CCAS.
Au cœur, autre secteur prioritaire, l'amélioration du cadre de l'apprentissage des jeunes avec l'installation de la climatisation dans les écoles. 100% des classes seront équipées à la rentrée 2028. Concernant la reconstruction, 4 grands projets sont en cours sur la commune. Ils concernent des équipements détruits pendant les émeutes, la place Sagato, dont les travaux ont débuté cette semaine, le centre aquatique régional de Dimbéa, l'école des Jacarandas et l'équipement sportif de Dalmas situé au parc des sports de Coutiou.
Le marché de l'immobilier est l'un des révélateurs de la santé économique d'un territoire et nous l'avons scruté comme nous le faisons régulièrement ce midi dans les jeudis de l'économie. Depuis plusieurs années, il est en tension en raison des crises successives et la situation s'est brutalement aggravée avec les émeutes en 2024. Aujourd'hui, on note une légère reprise des transactions, nous a dit Maître Elijah Mougel, la présidente de l'Ordre des notaires de Nouvelle-Calédonie.
Les notaires collectent et transmettent à l'ISE leur nombre de transactions, leur nombre de compromis également depuis 2024. Donc ces chiffres, ils sont plutôt positifs. Si on compare sur les 5 premiers mois de l'année 2026 au regard de 2025, on a une hausse du nombre de transactions et une hausse des compromis. Alors la hausse des compromis est un peu plus importante, ce qui veut dire que peut-être le prochain trimestre, on aura également une hausse des transactions qui suivra celle des compromis. Par exemple, on faisait à peu près 7 compromis en une semaine. Aujourd'hui, on en fait 10. Donc, c'est quand même une évolution importante avec des prix qui restent, en revanche, toujours très bas. Donc, c'est vraiment le nombre de transactions qui, aujourd'hui, permet de considérer qu'il y a un petit redémarrage et pas le prix de l'immobilier.
Plus de transactions, mais à des prix qui restent constants et souvent relativement bas par rapport aux années d'avant les émeutes, ce qui attire de nouveaux acquéreurs, a souligné Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération territoriale des agences immobilières.
On a des acquéreurs qui, depuis quelques mois et depuis quelques jours, s'intéressent à des valeurs qui sont plus élevées que ce qu'on constatait avant. Aujourd'hui, une hausse du volume et une hausse des valeurs financées ne veut pas dire que les prix remontent. Les prix à la vente ne vont pas remonter avant plusieurs mois, voire même années. Et si jamais aujourd'hui les gens achètent, c'est parce qu'il y a des prix qui sont très très attractifs. On a des produits, que ce soit des appartements ou des maisons dans Nouméa ou le Grand Nouméa, qui, dans un certain nombre de cas, sont des valeurs qui sont très intéressantes pour des investisseurs. Mmh. Et ça, c'est une nouveauté. On voit aujourd'hui un certain nombre de gens qui achètent parce que les prix sont bas et dans une perspective d'investissement avec des gens qui ne sont pas Crésus, hein, qui ne sont pas des milliardaires et qui néanmoins profitent de l'opportunité pour avoir un complément de retraite à moyen long terme.
Dans ce contexte, le point noir reste les projets immobiliers neufs. Les chantiers de ces derniers mois sont pratiquement terminés, mais ils avaient été lancés avant les émeutes. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont au plus bas, malgré la demande du monde du BTP, a expliqué l'architecte David Brie.
Il y a quand même beaucoup moins de projets. Après, c'est sûr que j'ai des confrères et des consoeurs qui ont répondu à des appels d'offres et qui ont remporté ces appels d'offres, et donc du coup, qui ont plus de visibilité. Mais quand même, quand je prends du recul sur les entreprises ou les fournisseurs avec qui on travaille, voilà, c'est moi, j'ai beaucoup d'appels toutes les semaines d'artisans ou de fournisseurs qui me demandent qu'est-ce qui sort, quels sont les projets, ces choses-là. Donc il y a quand même une demande de travail quoi, au niveau du BTP.
Et déjà dit l'économie dans lesquelles d'autres aspects du marché immobilier ont été abordés. Ils sont disponibles sur rrb.nc. Hier, le gouvernement a autorisé Air Loyauté à élargir sa desserte. À partir du 18 juillet et jusqu'au 30 septembre, la compagnie proposera des liaisons régulières vers Ouvéa et Marais au départ de Magenta, en complément de ses vols existants déjà vers Lifou et Tiga. Cette extension de l'activité est une bonne nouvelle, saluée par le directeur général de la compagnie, Michel Druet. Cette desserte élargie permet aussi à la compagnie de se projeter, mais elle doit pour cela mener plusieurs chantiers, nous a-t-il dit.
Pour l'instant, nous avons un appareil sur un total de 3 avions qui a été commandé. Nous attendons donc le paiement des subventions d'investissement qui devaient nous être octroyées déjà depuis 2 ans. Pour pouvoir poursuivre l'acquisition des 2 autres appareils. C'est vrai que pour être rentable, il faudrait qu'on ait les autres appareils, parce que le montant des charges fixes reste élevé par rapport à l'exploitation d'un seul avion. C'est un petit peu notre problématique. Il y a eu des discussions avec les collectifs, et j'espère que ça se mettra en place, donc pour qu'on ait des petits dépôts de carburant à la fois à Ouvéa et Marais, en plus de l'IFU qui va être réactivé très prochainement, et au niveau de l'encore carburant, ça nous fera un besoin bien moins important, ce qui va libérer beaucoup de charges offertes et nous permettre de peut-être d'avoir l'avion au complet avec ses 9 places.
Et le programme des vols d'Air Loyauté sont disponibles sur le site de la compagnie. Un stage dating pour connecter les étudiants et les entreprises locales. Il était organisé aujourd'hui par les professeurs de BTS du lycée La Pérouse. Plusieurs dizaines d'élèves ont préparé leur CV et lettres de motivation pour rencontrer les professionnels. La réalisation de ce fameux stage est obligatoire pour valider leur formation, mais la recherche est parfois compliquée. D'où cette démarche groupée, nous explique Laetitia Soyard, coordinatrice du BTS Gestion des petites et moyennes entreprises à La Pérouse.
Déjà, l'avantage cette année, c'est qu'on a pu l'organiser au sein du lycée. Et en fait, il y a des échange et du réseautage, c'est-à-dire que chaque BTS a pu inviter des professionnels. Alors, en ce moment, c'est vrai que le contexte économique est compliqué. Notre cible, ce sont les petites et moyennes entreprises et qu'elles n'ont pas forcément le temps, les moyens de se consacrer à l'encadrement d'un stagiaire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un moyen supplémentaire pour obtenir des stages. On met en commun nos moyens.
Les étudiants avaient un peu d'appréhension avant de rencontrer les professionnels ce matin, comme ces 2 étudiantes de première année en BTS Communication qui sont tout de même reparties confiantes.
On a été préparés. On devait aussi faire des recherches sur les entreprises pour lesquelles on aimerait avoir un entretien. Et on préparait aussi nos CV et nos lettres de motivation avec les professeurs.
Au début, on était un petit peu stressés, mais au final, on s'est vite rendu compte que les entreprises étaient là avec beaucoup de bienveillance, donc c'est super bien passé.
Qu'est-ce que vous attendez de ce stage?
Moi, personnellement, moi, ce qui me plaît, c'est les créations visuelles, les illustrations. Et ce qui me plairait vraiment, c'est de travailler en agence de communication pour créer des visuels.
Moi, j'attends d'apprendre beaucoup plus de choses, parce que du coup, ça serait une première expérience pour moi, mais vraiment de me nourrir de tout ce qu'ils vont m'apprendre et d'évoluer, oui, dans le domaine.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson. Une quinzaine d'entreprises a répondu à la demande du lycée La Pérouse. Et puis en bref, notez que c'est l'un des salons toujours très attendus. Le 35e salon Floralie et Jardinage a ouvert ses portes aujourd'hui, baie de la Moselle. Il est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat et il est ouvert jusqu'à dimanche de 8h30 à 17h30. À 18h13, une nouvelle pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant pour une plongée dans le monde de l'opéra à l'occasion d'une soirée spectacle organisée samedi soir par le Conservatoire.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Répondez à l'appel du Vanuatu. Envolez-vous vers Port-Vila à partir de 57 500 francs par personne, incluant les billets d'avion, 3 nuits d'hôtel, les petits déjeuners et les transferts. Réservez dès maintenant auprès de votre agence de voyage. Plus d'informations sur la page Facebook Office de tourisme du Vanuatu. Le Vanuatu, c'est la promesse de vacances inoubliables. Alors, prêt à décoller ?
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite et la fin de ce journal en musique. Vivons ensemble l'opéra. C'est une soirée pas comme les autres que vous propose le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie samedi à 19h. Il s'agit de proposer une soirée au cours de laquelle tous les ingrédients de l'opéra sont réunis sur une même scène autour de la contralto Svetlana Lifar. Cette artiste internationale a été invitée par Véronica Antoniuk, professeure de piano au Conservatoire, qui a conçu cette soirée spéciale.
L'idée, c'est de faire découvrir au public calédonien l'opéra comme genre. L'opéra, c'est surtout le mélange de théâtre et la musique. Et l'opéra, c'est bien sûr la voix. Grâce à ce genre-là, on peut aussi mélanger différents artistes sur la scène. Par exemple, un finaliste du concours voix outre-mer, Livio Irfala, Jean Ballet du Conservatoire, qui va nous faire des mises en scène, qui bien sûr à l'opéra, on a la scène avec le ballet. Après, l'ensemble lyrique, qui est aussi un tout petit ensemble qui va accompagner, par exemple, dans le Carmen, quand elle chante Abanera, il y a l'ensemble lyrique qui participe, donc un peu de mise en scène. On a également la projection d'images qui va créer décoration façon imaginaire, bien sûr, c'est pas décor comme dans l'opéra, mais ça va donner un esprit et vraiment surtout l'ambiance.
Un véritable spectacle donc qui va permettre aussi de retracer l'histoire et l'évolution de l'opéra en mêlant musique, danse et vidéo mapping, vous l'avez entendu, autour d'airs d'opéra interprétés par Svetlana Lifar. Cette chanteuse a tout de suite répondu à l'invitation pour participer à cette soirée à Nouméa.
Je voulais surtout avoir un échange avec les artistes qui y a à Nouméa pour créer vraiment un joli ensemble et faire découvrir ce genre assez particulier, mais avec les gens qui sont sur place, pour recréer une atmosphère de l'opéra, une atmosphère assez particulière.
Vous avez une carrière internationale déjà très très riche. Un projet comme celui-là, vous le prenez comme une manière peut-être aussi de transmettre la passion que vous avez. C'est pas simplement une prestation, c'est une passion à transmettre.
Exactement. Et en plus, j'ai eu de la chance de donner un masterclass pour les jeunes artistes. Donc pour moi, c'est une belle et unique occasion de transmettre mon savoir-faire et aussi, surtout, ma passion de l'opéra. Les jeunes ne sont pas forcément tout de suite favorables à cet art qui est assez complexe, mais moi, je voulais absolument transmettre cette passion et faire voir que tout le monde peut le faire. Après, il faut en effet se donner les moyens. Avant tout, chanter, ça procure du bonheur, parce que quand on est heureux, on chante. Je pense qu'il faut vraiment que cette tradition persiste, parce que le chant, c'est quelque chose qui vient du cœur, et c'est notre cœur qui parle pendant qu'on chante.
Si vous voulez bien, parlons un petit instant de votre tessiture, hein. Vous êtes contralto, c'est-à-dire que c'est une voix basse pour les femmes. Est-ce qu'il existe un vrai répertoire aussi pour ce type de tessiture, ou est-ce que c'est parfois difficile de trouver des œuvres ou des opéras dans lesquels on peut vraiment mettre en valeur cette tessiture si particulière?
La richesse de l'opéra nous permet justement d'avoir un très large répertoire, de la musique baroque, la musique classique, Verdi, Mozart, tous les grands compositeurs qui sont heureusement écrits pour cette voix. Mais en effet, disons qu'on est un peu moins sollicité que les grands sopranos qui font toujours les vedettes, ou les ténors qui sont toujours les jeunes amoureux. Donc on a un peu moins de possibilités, mais en même temps, on n'est pas démunis des rôles.
Voilà donc Svetlana Lifar, contralto, qui a chanté sur toutes les scènes de métropole, mais aussi en Espagne et à la Scala de Milan. Elle sera donc au cœur de cette soirée baptisée Vivons ensemble l'opéra, qui a lieu samedi à 19h. Au Conservatoire de musique et de danse de Nouméa. Les places sont en vente sur Itiquette. Et après cette échappée musicale, le sport et le football, évidemment, pour terminer ce journal.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azure Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azure Piscine et Outdoor.
La Coupe du Monde avec les suites de 16e de finale de la compétition. On connaît trois nouveaux qualifiés pour les 8e de finale, Lionel.
Tôt ce matin pour nous, c'est l'Angleterre qui a gagné sa place pour les 8e de finale en s'imposant sur la République démocratique du Congo. Les Anglais menés au score dès la 7e minute de jeu se sont finalement imposés 2-1 grâce à un doublé d'Harry Kane dans le dernier quart d'heure. Qualification également de la Belgique ce matin. Qualification arrachée au bout du bout du bout du bout et encore un petit peu plus loin encore de la prolongation sur un pénalty Belgiens inscrits à la 125e minute de jeu par Tielemans. Précisons que les Belges, qui étaient menés 2-0 à l'heure de jeu, étaient revenus au score à la 86e, puis avaient égalisé en s'offrant donc une prolongation à la 89e. Le dernier 16e de finale de la journée voyait une confrontation entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Les Américains, qui, comme les deux autres pays organisateurs, le Canada et le Mexique, se sont qualifiés pour les 8e. Victoire 2-0 des Américains qui affronteront la Belgique au prochain tour. Les 16e de finale se poursuivent demain. Trois nouveaux matchs au programme. Espagne-Autriche à 6h, Portugal-Croatie à 10h et Suisse-Algérie à 14h.
Peu importe le résultat du match, votre extérieur, lui, est parfait. Chez Azure Piscine Outdoor, on a tout pour rendre vos soirées foot inoubliables. Pergola et mobilier outdoor pour le confort des supporters, parements muraux en pierre ou PVC pour un style qui claque. Azure Piscine Outdoor à Magenta et Païta, 46 42 42.
Allez, on termine encore avec un mot de football. Antoine Comboiré a résilié son contrat d'entraîneur du Paris FC. Le Calédonien était arrivé dans le deuxième club de la capitale en février dernier avec comme mission de parvenir à le maintenir dans l'élite du football français. C'est chose faite puisque le PFC a terminé 11e du championnat. Mais selon l'équipe, le quotidien L'Équipe, des désaccords sont apparus à la fin du championnat entre Comboiré et sa direction. C'est donc l'entraîneur anglais Liam Rosenior qui devrait succéder à Antoine Comboiré sur le banc du Paris FC. Et on ne sait pas quel sera l'avenir du coach calédonien. À 18h20, il est temps de passer à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Ismaël, on va commencer par le temps prévu ce soir et cette nuit.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Et le début de nuit est largement étoilé, mais des nuages porteurs d'averses s'invitent sur l'est, l'extrême sud et au Loyauté. Le vent d'est-sud-est forcit entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur le sud, l'est et les Loyautés. Et sous le vent, il s'établit sur la côte ouest entre 10 et 15 nœuds. Les températures ce soir, elles restent souvent stables de 17 à 21 degrés, mais remontent légèrement dans les terres de 12 à 15 degrés.
Un petit aperçu de ce qui nous attend demain matin.
Et bien quelques averses s'attarderont sur la façade est et le sud. D'ailleurs, le soleil sera bien présent jusqu'en fin de matinée où les nuages s'imposeront sur la moitié nord, sur l'ouest. Le vent s'établira d'est-sud-est de 5 à 10 nœuds, s'orientant temporairement au sud-est entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, d'est à est-sud-est autour de 20 nœuds, des rafales ne seront pas exclues et il moulira ensuite progressivement entre 15 et 20 nœuds.
Merci beaucoup Ismaël. C'est la fin de ce journal et après l'actualité en Calédonie, rendez-vous avec l'actualité en métropole et dans le monde dans ce Tout Info puisque vous allez retrouver dans un instant le journal d'Europe 1. Et ensuite, ce sera l'invité d'Europe 1. Notez qu'aujourd'hui, Laurence Ferrari reçoit l'ancien ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire.